15h03, c'est le moment de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, sur France Inter.
Salut Daniel !
Voilà, en fait, on a un petit groupe d'étudiants, là, de Sciences Po Grenoble, réunis autour du téléphone et...
Voilà, en fait, chaque fois qu'on a une après-midi de libre, vers 15h, au lieu d'aller laver ce qui nous reste de confiance dans les laveries automatiques, comme le disait Sylvain Ferré, il y a toujours un camarade qui s'appelle Antoine, un camarade à nous, et il nous envoie toujours voir là-bas si on y est, tu vois.
Et puis, régulière coïncidence, finalement,
on s'y retrouve toujours. Alors, merci beaucoup, Daniel, et surtout, joyeux anniversaire, Antoine.
Février 2013, François Hollande, dont l'élection à la tête du pays avait fait perdre son triple A à la France, a été contraint à la démission par la pression des marchés. Un gouvernement de coalition a été formé, mettant à sa tête Jean-Claude Trichet, dont l'expérience unanimement reconnue par les marchés a été saluée ce jour d'une augmentation du CAC 40 de 4,20%. En direct d'un futur pas si imaginaire, c'était Christophe à Caen.
Bonjour chers amis, vous avez aimé sans doute, comme moi, la publication de Stéphane Hessel. Indignez-vous, faites-vous plaisir, achetez et lisez la publication de sa femme, Christiane Hessel. Gaza, j'écris ton nom. Même éditeur, même plaisir à lire.
Oui, bonjour. Décidément, Sarkozy aura sali toutes les mémoires, tous les gens qui se sont battus vraiment pour leur honneur. Il a sali le plateau des Aiguères, il a sali le nom de Guy Môquet, de Jean Jaurès. Et maintenant, voilà, qui nous fait un truc pour le 11 novembre. Il faudrait quand même qu'il se rappelle que le 11 novembre, ce sont des gens, des jeunes de 18 ans, 20 ans, qui sont partis, qu'on a forcé à partir. Les gars qui sont morts en Afghanistan, et malheureusement, ils sont morts en Afghanistan, ce sont des gens, c'est leur métier de se faire tuer. Ça n'a rien à voir avec le 11 novembre. Voilà, c'est tout. Ce mec est minable. Allez, bientôt, je ne sais pas ce qu'il va nous faire de plus. Enfin, ça ne tient plus à rien de lui. Au revoir, à bientôt.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Entendre cette phrase de Peggy, déjà stupide en elle-même, car il n'y a pas de guerre juste ailleurs que dans les discours officiels ou dans les œuvres de propagande. Entendre cette phrase de Peggy prononcée par Sarkozy en hommage aux soldats français tombés en Afghanistan, c'est un peu comme si le meurtrier de la petite Océane était venu prononcer son oraison funèbre lors de ses obsèques. Encore que le repentir d'un meurtrier est souvent plus sincère que l'hommage rendu par Sarkozy aux soldats soi-disant tombés pour la France et en réalité sacrifiés sur l'autel de la finance. Mais il y a pire encore. Sarkozy utilise la mémoire des morts à seule fin de réaliser la plus vile opération médiatique qui se puisse concevoir dans l'optique d'une campagne électorale. C'est un président avec l'arrière-pensée de sa réélection qui rend hommage à ceux qu'il a envoyés se faire tuer, non dans l'intérêt supérieur de la France qu'il évoque bien sûr, mais dans l'intérêt supérieur de la finance, puisque toutes ces guerres, dans l'idée des gouvernants et dans l'idée des financiers qu'ils servent avec la plus grande servilité, ne sont légitimés que par la volonté de convertir par tous les moyens les pays détenteurs de richesses à la loi du marché. La conversion à la démocratie n'est en réalité que la conversion à la loi du marché. Et devant le spectacle ignoble dont Sarkozy voudrait nous faire les spectateurs complices, il me vient à l'esprit les paroles prononcées par l'évêque de Nîmes lors des obsèques de la petite Océane. Nous sommes dans la stupeur devant l'horreur des faits. Les mots ne peuvent plus rien dire de ce que nous ressentons. Taisez-vous et partez, Monsieur le Président. Claude Elliot, Gradignan, le 11 novembre 2011.
Remontez, il est notre ami Claude aujourd'hui. C'est vrai que c'est une journée particulière, le 11 novembre, évidemment. C'est une certaine gravité, ce jour-là, depuis quand? Et que vous rappelle le 11 novembre 1918? J'avais un prof qui nous disait ça. Et la réponse était la mort de Guillaume Apollinaire. Mais pas seulement, bien sûr. Et c'est la journée des détournements de cadavres. Hein, c'est là, ça y va, le détournement de cadavres, le détournement de mémoire, le détournement d'histoire, le détournement le jour du grand détournement. Pour la basse, si j'y suis depuis longtemps, c'est la journée de Craon, de la chanson de Craon qu'il faut prononcer crâne. C'est une de nos fiertés, à la base, si j'y suis, que d'avoir contribué à faire connaître et reconnaître aussi cette chanson depuis fort longtemps. On avait fait en 97 une série d'émissions sur les mutins, ceux qui avaient mis la crosse en l'air contre les ordres imbéciles de leurs généraux sur le front. Et on avait fait entendre cette chanson dans plusieurs versions. Alors chaque année, eh ben, on y revient et on va y revenir à nouveau cette année comme un rituel fraternel à la mémoire de ceux qui se sont rebellés rose rouge pour les mutins donc aujourd'hui. Et puis après, on continuera notre série de reportages, notre voyage en Cisjordanie. On ira dans une de ces colonies ou implantations avec ces colons ultra et la façon dont ils voient les choses. Ce sera la deuxième partie de cette émission. Et puis, s'il nous reste un peu de temps, on évoquera Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish. On l'évoquera et puis on entendra sa voix. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Soldat qui est tombé à Fontenoy, sachez que vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est avec des civils qu'on fait des militaires. Avec un civil vivant, on fait un soldat mort. Et pour les soldats morts, on fait des monuments. Des monuments aux morts. C'est un petit bout de la bataille de Fontenoy de Jacques Prévert. Jean-Claude de Seine-et-Marne.
La poésie est tout amour. Amour de tout, amour des hommes. Amour de ce monde où nous sommes. Amour de l'ombre, amour du jour. Amour des choses et des bêtes. Amour du silence et du bruit. Et du pauvre homme que je suis et du pauvre homme que vous êtes. Elle admet que le rossignol n'est d'éclatant que le ramage, que le paon n'est que son plumage, et l'aigle muet que son vol. J'ai trouvé ce petit poème dans les papiers de mon grand-père qui a fait la guerre de 14. Je ne sais pas s'il l'a écrit avant ou après la guerre.
Oui, Daniel et toute équipe, bonjour, ici Flora. Au sujet du 11 novembre, peut-être vas-tu passer cet après-midi une émission sur l'offensive Pétanivelle. Allez tous porter une rose au monument aux morts en écrivant « Même à la craie par terre, à la mémoire de Craon, Pétanivelle, assassin de nos ancêtres. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. » Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Salut Daniel, aujourd'hui 11 novembre. Je voudrais rendre hommage à un monsieur que j'ai rencontré il y a quelques années. Je participais au tournage d'un documentaire sur les Poilus de 14. Et on avait rencontré un des derniers Poilus de 14. Il avait 108 ans, le monsieur, il s'appelait Léon. On l'avait rencontré en province, dans sa petite maison, sans argent, sans rien. Complètement démuni, avec son fils qui avait 80 ans. On était tous là, l'équipe technique, la caméra. Et puis on essayait de lui faire raconter l'horreur, parce que c'était le dernier poilu vivant qui avait participé au chemin des dames. C'est toujours assez paradoxal d'aller voir des vieilles personnes comme ça qui, depuis longtemps, ont perdu la mémoire pour essayer de refaire un travail de mémoire. Donc ils nous disaient rien. Ils se rappelaient plus de rien, le pauvre homme. On galérait un peu là, à essayer d'obtenir quelque chose. Et puis à un moment, on a vu son œil pétiner. Et puis il s'est mis à chanter la chanson de Craon. Voilà, c'est tout ce qu'il avait retenu de cette tuerie épouvantable. Et là, il y avait quatre personnes derrière la caméra qui chialaient. On chialait tous. Parce que c'était quand même assez terrible de voir cet homme qui avait dû peut-être rencontrer la personne qui avait écrit cette chanson de Craon. Voilà. C'était un monument aux morts vivants qu'on avait devant nous. Voilà. Et puis pour la petite histoire, ce monsieur était retraité depuis 1949 de la SNCF. Voilà. Donc il aura fait 58 ans de retraite. Je l'oublierai jamais. Il est décédé il y a 2 ans et je l'oublierai jamais.
Col
lente et soulante. Mélodie mélancolie et jolie comme la guerre, selon Apollinaire, qui fut blessé au front et au front sous les frondaisons du bois des buttes. Une étoile de sang me couronna jamais, écrivait Guillaume, prémonition des poètes. 50 ans avant, il songeait, c'est sûr, au Tché. Le même rouge au front étoilé, Guillaume et Ernesto voisinent sur l'étagère de nos panthéons imaginaires. Collante, la valse lente de terre, d'acier, de merde et de sang. Dans la pente, j'ai eu la joie, le bonheur de parler là avec Yves Gibault, à vif, toujours, marchant au bord des larmes et des labours, tâchant d'arracher quelque chose à la guerre et murmurant cette chanson pour danseurs de sanglots sur le chemin des dames. La chanson de Craon qu'il faut prononcer crâne, comme les crânes qui remontent encore, toujours et toujours à la surface. Crâne de Craon, on est pris de tendresse soudain pour la chair des disparus, des crânes de Craon, chair de ces hommes si jeunes et si hommes. Une barbe à peine, un duvet, une peau rose de gamin qui recouvrait les crânes de Craon. C'est le visage de Georges, mon père, enfant. C'est la France qu'on évite. C'est la France qu'on évite, la punie où l'on va aujourd'hui. Celle des cimetières militaires, celle où les oiseaux volent sur le dos pour pas se mettre le moral en ruine. Mémoire collante, mémoire qui hante. Pourquoi revenir encore, encore ici, alors que je sais d'avance, au retour, le goût presque louche d'amour et de dégoût dans la bouche. Haine, somme, marne, morne paysage d'un néant tenace, le désespoir exactement, morne, oui, morne pleine, pleine, toujours de bombes à retardement, d'obus, de grenades à gaz, fragments de mâchoire, boutons de capote, chaussures, tibias, gamelles que la terre se refuse à avaler. Yves Gibault, bouleversant, m'avait montré un petit encrier et j'imaginais Georges, mon père, écrivant à son frère François, 60 rue de la Villette à Paris, « Tout va bien ici, je te salue et te charge d'embrasser nos chers parents. » François mourut, Georges vécut et fit contre tout monument de mort un monument de vie. 8 enfants, dont je suis, fragment d'une mémoire fantôme, dans cette terre maudite, presque un quart de notre France ravagée. Terre des tranchées, toujours visible aujourd'hui, on peut passer le doigt sur le bord de la plaie. Mais, marchant comme nous le faisons, ne sommes-nous pas, là, des voleurs de détresse, nous habillant des lumières des supplices de nos pères, visant la première place sur le podium des victimes. La boucherie la plus infâme, l'armée, le pouvoir, fit tuer en 10 jours 155 000 petits soldats français. Oui, un crime contre l'humanité, contre l'humain, contre l'amour sur ce chemin des dames. Serions-nous trop encombrés de mémoire, d'une mémoire qui nous empêcherait de voir le présent ? La seule mémoire indispensable est celle qui maintient vivante la source du droit. C'est beau. Mais là, il y eut un sursaut contre la barbarie, un miracle contre ce mal normal, une fragile chanson. Ils ont mis leur crosse à l'envers, ils ont refusé de marcher, ils ont refusé de mourir, ils se sont révoltés parce que c'était la seule façon de sauver quelque chose d'humain et sans doute aussi quelque chose de la France. Le beau geste fut de nous dire que la désobéissance est une chanson d'amour, que la liberté est une valse lente, que l'insoumission se danse.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Grand, sur le plateau, qu'on se fait trouer la peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. Quand au bout de 8 jours leur peau terminée, on va rejoindre les tranchées. Notre tâche est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot, même sans tambour, même sans trompette. On s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Caron, sur le plateau, qu'on se fait trouer la peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance. Pourtant, on garde l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseur à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement, dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Grand, sur le plateau, on se fait trouer la peau. On est tous condamnés, on est les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Dans la Mouloudji qui interprétait la chanson de Crane, il y a beaucoup d'autres versions de cette chanson qui, au départ, était une chanson d'amour. C'était « Bonsoir, m'amour », je crois, le titre. C'est une chanson, voilà, une petite chansonnette, une valse lente. Et puis, les gars ont mis des paroles que vous venez d'entendre. Longtemps, on les a attribuées à Paul Vaillant Couturier, mais on ne sait pas qui est l'auteur, véritablement, de cette chanson. Et elle accompagnait, vous avez compris, les mutineries de 1917, dont on ne connaît toujours pas le nombre exact. Mais l'état-major avait offert une récompense énorme, énorme, à celui qui dénoncerait l'auteur des paroles. Et on n'a jamais su. Il y a une chose de beau là-dedans, dans cette absence de délation, on va dire, dans des moments comme ça. Et il y a eu d'autres versions. On m'a dit ça chaque année. Il y a toujours un auditeur qui dit « Ah oui, mais vous savez, il y a eu d'autres versions. » Alors, c'était pas Craon, mais c'était d'autres lieux. Voilà, cette belle chanson, cet hommage à ceux qui illustré magnifiquement, génialement par cette phrase que je répète chaque année, bien plus que chaque année d'ailleurs, attribuée à Anatole France qui disait « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels ». Voilà, on va tourner la page maintenant et on va continuer notre voyage en Cisjordanie, en Palestine. La question c'est Palestine, quel état ? Et on continue en Cisjordanie, non loin de Ramallah, où il y a quelques jours, avant que nous passions dans cette région, il y a eu un drame, une colonie sauvage, entre guillemets, puisqu'elle devrait toutes l'être, ces colonies qui sont, vous le savez, en infraction avec le droit international, mais reconnues par le gouvernement israélien. Et donc, une de ces colonie sauvage avait été démasquée, si on peut dire, par la justice israélienne, et trois maisons avaient été détruites. Alors, c'est le sujet de notre reportage. Parmi ces colons déçus et révoltés par une telle atteinte à leur mission et à leur rêve, du grand Israël. C'est notre sujet du jour jusqu'à 16h sur Inter.
Qu'est-ce que c'est que cette fable que cette terre appartient aux Arabes? Il dit, c'est une chèvre qui laisse quelques crottes quelque part, ça lui appartient.
Il n'y a pas d'État palestinien. Si les Arabes veulent rester chez nous, reconnaître nos souverainetés, nous les accueillons avec les bras ouverts, quoi. Sinon, ils doivent chercher leur souveraineté autre part. Chacun a son pays, ce n'est pas mon problème.
Il est en train de dire qu'il n'y aura jamais de paix. Il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de paix. Pas parce que nous ne voulons pas la paix, mais parce qu'ils ne le veulent pas, ils n'en sont pas capables. Eux, c'est les Arabes.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis, avec Guy Vanctil, Palestine. Quel état? La colonisation continue.
Donc là, on sort sur la route des colons. Donc vraiment, on est sur des routes typiques des colons israéliens où la majorité des Palestiniens n'ont pas accès. Et donc toute cette terre-là qui appartient à des familles palestiniennes, on peut les voir, les terrasses sont complètement asséchées, il n'y a plus d'arbres dedans parce que les Palestiniens ou les fermiers palestiniens n'ont plus accès à leurs terres ici.
Alors que c'est un vol d'oiseau, c'est quelques centaines de mètres.
Exactement.
Ce qu'on oublie, c'est que la colonisation a été condamnée par la Cour pénale internationale, par la Cour de justice internationale et par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Israël s'assoit dessus. Et Obama avait promis le gel des colonies ou le retrait.
Obama a promis un État palestinien, donc qui sous-étend que l'arrêt de la colonisation. Mais Obama a dit il y a un an exactement au Caire que l'arrêt de la colonisation était une condition à la reprise des négociations de paix. Et face à l'entêtement israélien et à l'intransigeance israélienne, aujourd'hui, en fait, il y a un arrêt de négociation et la colonisation continue. D'ailleurs, elle n'a jamais été aussi rapide dans les territoires.
Là, il y a une colonie juste à droite. Elle s'appelle comment, celle-là ?
C'est Ofra.
C'est Ofra. Il faut voir la tête que ça. C'est des petits pavillons de banlieue. Hein.
Oui, tout à fait.
Mais banlieue, des petites cités de banlieue.
Avec son entrée gardée par l'armée israélienne. Et vraiment, en fait, il n'y a qu'une route qui sépare les municipalités en fait, palestiniennes des colonies israéliennes.
C'est un enchevêtrement. Là, il y a un village ou une ville palestinienne, puisqu'on voit le minaret. Mm-hmm.
Et tout cela, en fait, nous dit, mais quel État palestinien on va avoir si les colonies se développent, et ils sont en train de se développer très très rapidement. Donc on voit que les colonies sont en train d'étouffer toute possibilité d'avoir un État palestinien. Donc moi, comme beaucoup de Palestiniens, je crois que si on veut avoir un État palestinien, c'est le moment ou jamais. Si la colonisation va continuer comme ça pour un an ou deux, il n'y aura plus de possibilité d'avoir un État palestinien. Ou cet État sera démorcelé, pas viable, pas durable dans le temps.
La place de la religion à nouveau en débat en Israël. Deux rabbins ultranationalistes ont été arrêtés pour incitation à la violence et au racisme. Dov Lior et Yaakov Yosef ont signé un traité de théologie très controversé, la Torah du roi. Un texte qui justifie l'exécution d'innocents non-juifs en temps de guerre. Le spectre de la théocratie plane sur l'État hébreu, où en l'absence de constitution, la religion et l'État ne sont pas clairement séparés.
France 24, 10 juillet 2011.
Ils sont quelques centaines à prendre d'assaut la Cour suprême israélienne, venus pour protester contre l'arrestation de deux rabbins, Dov Lior et Yaakov Yosef. Les deux religieux ont été brièvement interpellés pour avoir accordé leur soutien sans réserve à un livre sulfureux, la Torah du roi, publié en 2009 mais dont la diffusion a été interdite. L'auteur y justifie l'assassinat de non-juifs dans certaines circonstances.
Partout où l'influence des gentils constitue une menace pour Israël, il est permis de les tuer.
Pourtant, ce ne sont pas ces mots qui font le plus débat en Israël, mais bien l'arrestation des rabbins.
Je pense que la seule véritable question en Israël, c'est qui est au-dessus de qui. La loi de l'État est-elle au-dessus de la halara, la loi juive, ou la halara est-elle au-dessus de la loi de l'État?
Pour cet homme, la réponse est claire. Sur l'autocollant, on peut lire « La loi de la Torah est au-dessus de la loi de l'État. Arrêtez-moi ». Ce député d'extrême droite a un discours plus rodé, mais non sans contradiction.
Les rabbins ne sont pas au-dessus des lois. Un rabbin qui a enfreint la loi doit être traduit en justice. S'il a volé, touché un pot de vin, nu à quelqu'un, il n'a aucune immunité. Mais la Torah, elle, a l'immunité. Personne ne peut traduire la Torah en justice car elle défend des valeurs morales absolues.
Si cette affaire fait tant de bruit, c'est qu'elle illustre l'influence grandissante des ultra-religieux dans la société israélienne. En réponse aux protestations, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a simplement rappelé que la loi s'appliquait à tous. Pas sûr qu'il en soit totalement convaincu lorsqu'on sait qu'il travaille avec Ovadia Youssef, le chef spirituel du parti des ultra-orthodoxes et qui n'est autre que le père d'un des deux rabbins arrêtés.
Chaque société, chaque culture produit ses extrémistes. Bien évidemment, engendre des extrémistes. Prononce ce mot-là, si vous voulez bien. On s'inquiète de l'existence des salafistes, par exemple. On s'en est inquiété récemment en Tunisie. On s'inquiète, on s'insurge. Lorsque un conseil libyen proclame la charia, on s'insurge moins quand un parti hindouiste extrêmement violent et extrémiste, les branches du BJP, massacre des musulmans dans le Gujarat. Ça, on pose moins de questions. On pose moins de questions, on ne demande pas. Aujourd'hui, aux catholiques en général, de calmer les catholiques extrémistes. Chaque société produit ses extrémistes. La question est comment elle les endigue. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on peut imaginer une société qui ne produirait pas ces extrémismes? Peut-être, on n'en sait rien. En tous les cas, la question c'est comment elle les endigue. Et ce qu'on vient d'entendre, ce petit sujet, enfin court sujet de nos confrères de France 24, rappelle ces fous de Dieu nombreux en Israël et dans les colonies, et la façon dont le pouvoir actuel les endigue ou ne les endigue pas, s'en sert ou ne s'en sert pas, c'est une question extrêmement importante. La question de la colonisation, on le disait à l'instant avec notre ami Rami, en Cisjordanie, puisque À Gaza, il y a eu un retrait. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, au total, 300 000 colons présents en Cisjordanie et 200 000 environ à Jérusalem-Est en arrondissant. Il faut donner quelques indications peut-être sur cette colonisation, rappeler qu'elle est absolument illégale au regard du droit international, rappeler qu'il y en a environ 132 implantés dans le territoire et qui sont reliés entre elles par un réseau routier extrêmement compliqué qui évite les villes et les villages palestiniens. C'est comme un autre monde posé sur le précédent. Les associations de colons, il faut le rappeler, reçoivent des dons du monde entier, de la communauté juive, surtout américaine, mais aussi des églises pentecôtistes, évangéliques américaines et des chrétiens sionistes des États-Unis. Il faut le rappeler que ces croyants poussent tous les juifs du monde à venir s'installer en Israël, car c'est la condition pour eux du retour du Messie. Il faut dire aussi qu'il y a des associations israéliennes qui luttent contre la colonisation. Elles sont nombreuses et courageuses, et qu'il existe, vous le savez, une campagne de boycott, BDS, boycott des investissements et sanctions. Ce qu'il faut dire aussi sur la colonisation, c'est que dans tous les sondages, une majorité relative ou absolue d'Israéliens se prononce pour le démantèlement de la plupart des colonies, quitte à indemniser les familles ainsi rapatriées. Rapatriées, évidemment, entre guillemets. Cette solution correspond également aux attentes, ça c'est plus surprenant, d'une majorité de colons, même si une minorité s'est radicalisée. C'est cette minorité qu'on va rencontrer. Selon une enquête de Shalom Arshav, la paix maintenant, 60% environ des colons obéiraient à une décision démocratique de retrait. Seuls 6%, c'est une approximation aussi, annoncent qu'ils s'y opposeraient par tous les moyens. 2% seulement soulignent bien tous les moyens. Ça donne une idée de ce phénomène qui, encore une fois, est extrêmement important pour toutes les conséquences qu'il a dans ce conflit et toute l'importance qu'a ce conflit pour tous dans la région, dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient et bien souvent dans le monde entier. La colonisation continue, c'est dans la base où j'y suis jusqu'à 16h.
שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. שלום עליכם, מלאכי השלום, בואכם לשלום, מלאכי השלום, ברכוני לשלום, מלאכי העליון, בצאתכם לשלום, מלאכי השלום. לה
Là, c'est un paysage magnifique. Là, il y a beaucoup de vent qui passe dans le micro. Mais est-ce que c'est un vent horizontal comme ça, chargé de parfums? C'est le désert.
Là, on aperçoit des villes sur les hauteurs. Et c'est un ciel magnifique, c'est superbe, superbe ce pays. Et là, c'est les colons qui sont autour de nous. Et la réunion est finie. Il y a des dialogues encore entre les colons, les représentants des colons et les rabbins, etc. Il y a les kippas qui s'envolent à chaque coup de vent. Et devant nous, il y a trois maisons qui ont été détruites. Trois maisons qui ont été détruites parce que la Cour suprême a considéré qu'elles étaient illégalement construites et exceptionnellement la loi a été appliquée à la demande d'un mouvement qui s'appelle La Paix Maintenant, Shalom Arshav, et qui a obtenu ce coup d'arrêt à l'implantation de cette colonie sur cette hauteur.
Un fait tout à fait rare, effectivement, la destruction de maisons implantées, construites par des colons et jugées illégales par la Cour suprême israélienne. Ehud Barak lui-même, le ministre de la Défense, avait ordonné la destruction de ces maisons dans cette colonie sauvage, entre guillemets, de Migron. Je dis entre guillemets parce que, on vient de le dire, mais il ne faut jamais perdre ça de vue, c'est qu'en principe, toutes ces colonies, cette colonisation de la Cisjordanie est sauvage et est illégale. Alors, vous le savez, il y a des grandes colonies qui sont devenues véritablement des villes et on ne voit pas du tout comment on pourrait un beau jour les détruire alors ou les faire disparaître. Ça pose des tas de questions, ça pose des tas de problèmes pour la suite de l'histoire commune ou séparée des uns et des autres. Là, on est chez des colons quand même assez radicaux et qui, en l'occurrence, ont fait venir à eux des rabbins tout à fait radicaux dont on vient d'entendre parler dans le document sur cet ouvrage, la Torah du roi, qui incite au meurtre des goyes et des gentils. Le livre a été interdit, a fait un scandale à travers le pays, mais les auteurs, ou ceux qui sont proches des auteurs, je parle des rabbins, sont bel et bien là, dans la pièce où nous entrons, qui est la synagogue de la colonie. Nous avons pris des kippas, on nous a donné des kippas, on est assis dans le fond de la pièce avec notre traducteur, Michel Barjavski.
Ah, tout le monde se lève.
Parce que c'est un rabbin qui se lève, donc tu te lèves.
Là, tout le monde se rassied.
Alors, c'est le rabbin d'Ovlior. C'est une des autorités des colons, une des autorités spirituelles des colons, un raciste notoire qui a écrit l'introduction et il y a même une procédure juridique contre lui. On a ouvert une enquête sur l'illégalité de ce qu'il avait écrit, à savoir dans quelles conditions on a le droit de tuer des non-juifs. Un goy qui a occupé une terre qui nous appartient, et cette terre nous a été donnée par Dieu, on a le devoir de les tuer.
Le devoir de les tuer?
Oui.
Tout le monde est là, calmement, et c'est un vieux monsieur, la barbe blanche, tout calme, tout docte, qui est en train de dire ça.
C'est un ensemble de fous furieux, tous les rabbins. C'est l'extrême droite des colons.
Et on est dans un de leurs bastions, ici.
Oui, à Migron.
Celui qui était derrière nous, là, qui vient de sortir, il a un revolver à la ceinture.
J'imagine que la plupart d'entre eux... C'est ce qu'on appelle la jeunesse des collines. Ils ont déjà le look, la grande kippa tricotée, les papillotes et les tzitzit là, qui pendent. Quand ils ont 50 plus, c'est eux qui viennent casser tout.
Ça tient pas, ma calotte ne tient pas.
C'est une question d'atavisme.
חוץ מבריטניה ופקיסטן, פקיסטן זה גם מדינה. בריטניה הייתה מנהלת מדיניות מאוימת נגד
Il faut bien préciser que ces extrémistes, l'extrême droite des colons, du bloc de la foi, est critiquée et très souvent rejetée par la majorité, évidemment, des Israéliens. Ce qu'on voit là, ça n'est pas Israël, ce sont des extrémistes, des colons extrémistes, extrémistes de droite, qui sont là, suite donc à la destruction de ces trois maisons dans ce village qui compte une cinquantaine de familles environ. On écoute les rabbins.
Qu'est-ce que c'est que cette fable que cette terre appartient aux Arabes? Il dit, c'est une chèvre qui laisse quelques crottes quelque part, ça lui appartient. Il y a une occupation, c'est l'occupation qu'avaient occupée les non-juifs cette terre. Lorsque les Romains nous l'ont volée, les prophéties nous disaient qu'on avait le droit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour les expulser. Tout, ça veut dire tout. Comme vous l'avez vu, il y a 3 semaines, les bolcheviks sont venus nous casser 3 maisons.
Les bolcheviks, c'est-à-dire l'armée israélienne sur ordre de la Cour suprême.
Tout à fait. C'est la première fois que j'entends cette expression.
Eux, c'est les bolcheviks. Pendant ce temps-là, la révolution arabe, c'est des sauvages. C'est les termes employés. Là, il y a un monsieur qui passe devant nous avec un M16, je crois. Donc un fusil militaire. L'autre a un revolver pour moi à saillir de sa poche. Avec 2 chargeurs, là. Là, j'entends le mot shalom, shalom, il est en train de parler de paix.
Ah, il est en train de dire, il n'y aura jamais de paix, il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de paix. Pas parce que nous ne voulons pas la paix, mais parce qu'ils ne le veulent pas, ils n'en sont pas capables. Eux, c'est les Arabes. Ils détestent la paix, et nous devons comprendre enfin qu'il n'y a personne avec qui parler, parce que la paix, c'est quelque chose qui leur est fondamentalement étranger. Il souhaite une bonne année aussi. Il souhaite la bonne année. Il dit une année de paix vraiment, mais pas d'une paix de drogué, une paix véritable.
Tout le monde se lève. Un nouvel orateur.
Chaim Druckmann.
Chaim Druckmann.
Le rabbin Chaim Druckmann. Je viens pousser un cri contre un crime qui est commis. Et sans même rentrer dans les considérations évoquées par le rabbin Lior sur le fait que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Le crime dont je veux parler, c'est le crime, une atteinte aux droits humains. Tout le monde le comprend que c'est un crime. Quand Migron a été construit par le gouvernement israélien, construit sur des terres vierges, où aucun arabe n'habitait par là, il n'avait jamais habité par là. Aucune agriculture n'avait existé ici, rien. C'était des terres vierges. Et une communauté a été constituée, pas secrètement, pas dans la clandestinité. Ah, c'est le gouvernement israélien lui-même qui nous a encadrés. Parce que la Cour suprême a affirmé que c'était des propriétés privées. Détruire un village, c'est un crime. Quel esprit de vie. Détruire.
Est-ce Si ça c'est la justice, si ça c'est le droit de Sodome et
Gomorrhe.
Vous
avez déjà vu qu'on détruit des maisons? Vous avez déjà vu qu'on sort des familles la nuit? Les Palestiniens, c'est tous les jours.
Voilà, étrange situation avec ces rabbins extrémistes, avec ces colons de la, du village de Migron, suite, je disais, de la destruction de trois maisons exigées par la Cour suprême israélienne, par le gouvernement, ces maisons ayant été construites sur des terrains appartenant à des Palestiniens. Voici une rencontre, le Rabbi Zuckerman.
Mon nom est Zuckerman et j'enseigne à Jérusalem, à la yeshiva qu'on appelle Har Hamor. Et j'ai une grande famille de 12 enfants. Mm-hmm. Je suis venu ici en Israël en venant de Bruxelles. Et donc voilà la source de mon français.
Depuis quand vous êtes ici?
Ça fait déjà plus que 50 ans.
Et parmi vos élèves, vous avez eu ce Michel Barchavsky?
Entre autres, oui.
Oui, dont le papa était rabbin aussi.
À Strasbourg.
Voilà, à Strasbourg. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici dans cette implantation? Quelle est la raison de votre présence ici?
Cette réunion-là, donc, c'était en fin de compte, il y a eu trois maisons détruites par le fait qu'il y a des pressions internationales qui, en fin de compte, essayent de dénigrer le droit de notre peuple, un droit historique, de revenir sur sa terre. Et donc, ils essayent, Abou Mazen est aujourd'hui en Amérique, à l'ONU, de déclarer qu'il est un État faisant partie des États de l'ONU. Il a sans doute la majorité, puisqu'il y a là, c'est une majorité qui est la majorité des Arabes, donc ça ne lui manquera pas. Le problème, est-ce que c'est la solution? Il n'y a pas de doute que notre réunion ici, ce n'est pas contre les Arabes ou les Palestiniens, mais notre réunion, c'est pour renforcer la pérennité de l'appartenance de notre peuple à notre terre. En d'autres termes, le droit historique d'Israël qui a été chassé par les Romains il y a à peu près 2000 ans, le droit historique, c'est que chaque nation a droit à une terre. La nôtre, dans notre souveraineté, dans notre royaume, était depuis David Ameler, le roi David, pendant 900 ans. Oui, il y a eu donc toute notre histoire. Bon, je ne vais pas quand même raconter toute notre histoire, ça va être trop long. Alors, cette longue histoire a, entre autres, ces 2000 ans d'exil dans tout le monde, dans les quatre coins du monde. Et voilà, notre peuple, reconnu par la Société des Nations il y a 70 ans, je crois, donc est revenu reprendre sa position ici en Israël et être souverain. Il est impossible qu'on soit souverain, évidemment, sans que nous ayons des frontières qui soient viables. Il est impossible de permettre aux Palestiniens d'envoyer des raquettes et des missiles sans cesse sur nos populations. De même ici, nous devons savoir que le Jourdain est la frontière d'Israël.
Le Jourdain?
Le Jourdain.
C'est-à-dire que pour vous, les frontières de 67 ne sont pas acceptables. C'est le Jourdain la frontière d'Israël.
Il n'y a pas de frontière de 67. C'est Abou Mazen qui invente cela. Il y a les frontières d'histoire. Les Arabes n'ont jamais eu de souveraineté ici. Nous avons ici à peu près dans notre État 1 million d'Arabes. Et si vous, comme tant que reporter, vous allez un peu visiter ces gens-là, ils ont toutes les libertés. On essaie de leur donner toute la possibilité de culturel et cultuel, car nous devons respecter l'étranger qui habite chez nous. Il n'y a aucun problème. Ce sont des êtres humains et nous devons les aider. Ils sont chez nous dans une démocratie très, très, très large, très libre et permettant tant de choses. Mais de toute façon, pour revenir à mon sujet, cette réunion a entre autres décidé de suggérer à notre gouvernement, de même que lui déclare un État, nous devons aussi déclarer que jusqu'au Jourdain, l'État d'Israël voit sa frontière.
C'est ça, c'est-à-dire que Pour vous, il n'y a pas de ligne verte, il n'y a pas de frontière de 67, et le mur qui a été construit, pour vous, est absurde.
Absurde, totalement absurde. Ça n'empêche aucun passage, premièrement. Ce n'est pas une frontière qui donne notre sécurité. Et surtout, ça rendra malheureux ces Arabes, ces gens qui, en fin de compte, sont d'un niveau culturel et économique très bas. Et heureusement, en venant ici, chez nous, dans l'université, ils montent leur niveau. Ils reçoivent une culture qui est un peu moins primitive, tout en respectant l'islam. Je parle de leur culture et de leur...
En somme, vous avez une sorte de mission civilisatrice.
C'est-à-dire, nous avons premièrement à revenir chez nous, être souverain sur notre
entre
terre.
Entre le Jordan et la mer.
Entre le Jordan et la mer Méditerranée.
Donc ça veut dire pas d'État palestinien.
Il n'y a pas d'État palestinien. Et si les Arabes veulent rester chez nous, reconnaître nos souverainetés, ce sera un problème, car toujours quand des minorités avec d'autres cultures et d'autres cultes, c'est un problème, mais nous les accueillons avec les bras ouverts, quoi. Si ils veulent notre souveraineté. Sinon, ils doivent chercher leur souveraineté autre part. Chacun son pays, c'est pas moi chercher leur solution. Nous pouvons peut-être trouver des autres endroits comme suggestion, c'est tout.
Donc pour vous, la solution, c'est le déplacement des Palestiniens vers la Jordanie.
Non. Je ne cherche pas une solution, car ce n'est pas mon problème. Je ne cherche pas une solution.
Mais pour vous, ni Gaza, ni la Cisjordanie ne constituent un État palestinien. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, ce n'est pas durable. Ce sont des guerres incessantes. Car en vérité, vous savez très bien comme reporter qu'en fin de compte, ils veulent que nous disparaissions. Ils veulent nous jeter à la mer. C'est inviable. Pour eux et pour nous. Car nous allons réagir.
Remontant pour sortir de la brume. Oh, on est parti avec la question Palestine. Dans Palestine, quel État? Là, on a eu la réponse, pas d'État palestinien. Donc, on va être obligé de continuer notre voyage. Aujourd'hui, donc, la colonisation continue. Un reportage avec Guy Van Til. Merci à tous. Merci au Rabbi Zuckerman. Merci à Michel Warchavski pour la traduction. Merci à Rami Rabaya pour la traduction du côté palestinien. Merci aussi à Michael Blum. Je rappelle... le titre d'un bouquin que vous devez toujours avoir sous la main, Les 100 clés du Proche-Orient d'Alain Grech et Dominique Vidal dans la collection Grand Pluriel chez Hachette, où vous avez des références d'un outil pédagogique. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter également sur là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur notre page Facebook. Et oui, la page Facebook de Là-bas si j'y suis, très facile à trouver, www.facebook.com/là-bas si j'y suis. Voilà, très facile à trouver pour les commentaires et les échanges. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, Bertrand Chometon et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Les banques évaluent bien la qualité de leurs clients. Pourquoi un client ne pourrait pas juger la qualité des services de sa banque? Chez LCL, pour faire changer les choses, ce sont nos clients qui nous notent. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance. Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez plus à votre argent, voire conditions en agence ou sur lcl.fr.
France Inter présente le best-of de Gotham Project. Tout l'univers de Gotham Project en 15 titres. Envoûtant, dansant, sensuel. Best of the Gotham Project, la révolution du nouveau tango. Retrouvez Gotham Project dans la programmation musicale de France Inter et sur franceinter.fr.
C'est des bons, Gotham Project. On se retrouve lundi à 15h pour Là-bas si j'y suis. Une bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
L'euro est confronté à une crise existentielle. C'est ce que dit Herman Van Rompuy, le président de l'Union européenne, annonce qu'il va convoquer un sommet de la zone euro. C'est dans ce contexte que le nouveau gouvernement grec vient de prêter serment. Le Premier ministre Loukas Papademos est un ancien vice-président de la Banque centrale européenne. Il a maintenu en fonction 12 ministres socialistes qui faisaient partie de l'équipe au pouvoir, notamment le ministre grec des Finances, le socialiste Evangelos Venizelos. Deux conservateurs font leur entrée aux affaires étrangères et à la défense. Et pour la première fois depuis 1974, un représentant de l'extrême droite fait son entrée au gouvernement. En Italie, le Sénat italien vient de donner son accord pour mettre en place un plan de rigueur et appliquer les mesures d'austérité réclamées par l'Union européenne. Le président du Conseil, Silvio Berlusconi, pourrait laisser sa place demain à Mario Monti, ancien commissaire européen, qui prendrait la tête d'un gouvernement d'union nationale. Dossier complet sur le sujet à retrouver sur franceinter.fr. Et en France, c'est l'erreur faite par Standard & Poor's qui continue d'agiter les milieux financiers. L'agence de notation a diffusé une information qui laissait penser que la France pourrait perdre son triple A. L'autorité des marchés financiers a ouvert une enquête sur le sujet. Michel Barnier, le commissaire européen au marché intérieur, parle d'un incident très grave. Les poilus ne seront plus les seuls héros des commémorations du 11 novembre. C'est ce qu'annonce Nicolas Sarkozy. Le gouvernement va déposer un projet de loi dans les semaines qui viennent pour que la journée soit dédiée à l'ensemble des soldats morts pour la France. Le chef de l'État qui annonce aussi la construction d'un monument dédié aux soldats qui ont péri lors de missions à l'étranger. Depuis un an, 24 combattants français sont morts en Afghanistan. De son côté, François Hollande, candidat du PS à l'élection présidentielle, propose que le 11 novembre soit l'occasion d'affirmer un engagement européen. Eva Joly, candidate d'Europe Écologie Les Verts, propose de son côté d'instaurer une journée européenne pour la paix. Un lynchage médiatique, ce sont les mots de Dominique Strauss-Kahn, relayés par ses avocats. L'ancien directeur du FMI demande à être entendu le plus rapidement possible par les enquêteurs chargés de l'enquête sur l'affaire de proxénétisme en lien avec l'hôtel Carlton de Lille. Selon des sources proches du dossier, son audition pourrait bientôt avoir lieu. Un crime contre l'humanité, c'est ce que dénonce l'organisation Human Rights Watch en Syrie. Cet après-midi, les hommes du président Bachar el-Assad ont de nouveau ouvert le feu sur les manifestants qui demandaient le départ du gouvernement. 5 d'entre eux sont morts. Le tennis, qualification express pour Joe Wilfried Tsonga au tournoi de Paris-Bercy. Il n'a pas eu besoin de disputer un seul set pour passer le stade des quarts de finale. Il devait affronter Novak Djokovic en quart de finale, mais le Serbe a déclaré forfait. Il se serait blessé à l'épaule. 16h04, à bientôt sur France Inter. C'est Didier Varro qui prend la suite.
Quand la musique donne,
sur France Inter.
Ils sont là, ils sont arrivés, Vincent Delerme et Alain Souchon. Et juste avant de les retrouver, le mix libre du mois de novembre. Elle s'appelle Dylan, elle est d'origine allemande. Signée sur le label B-Pitch Control, elle nous offre un premier album magistral, fruit d'une inspiration passée, irriguée par Billie Holiday, Jean-Michel Basquiat ou Jeff Buckley.
Tip tapping, I was tip tapping. Tip tapping in the dark. The sound of the leaves when my feet hit the ground. The sound of the leaves when my feet bounce around in the dark. The sound of the leaves when my feet hit the ground. The sound of the leaves when my feet bounce around in the dark in the bar.
Chloé, Jimmy Somerville, Kudlam ou encore Daniel August du groupe Gus Gus ont répondu à l'appel de la sensualité du couple électro Scratch Massive qui sort un troisième album intitulé avec à propos Nuit de rêve. Premier album pour le groupe breton La Boîte à Outils qui nous donne la sensation que Tim Burton se retrouve au pays des druides, une pop qui révèle un autre Finistère.
Je déchiffre les rébus, les charades à l'envers et les vieux papyrus, et je lis même à travers les sarcophages en pierre et les masques de fer. Peut-être est-ce mon imagination qui me fait déchiffrer.
Esmos, l'ancien clavier du groupe Birdie Nam Nam, poursuit son œuvre de réunification entre son godfather, le dieu père du jazz, et ses fils indisciplinés du hip-hop. C'est le volume 2 de son grand mix qui renouvelle l'idée de la sono mondiale.
In the zone of the day, I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, hold me, I'll wet ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around,
jump up and get down.
Jump up and get down.
Everybody jump, 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 jump.
Le mix libre, à retrouver en détail sur franceinter.fr. Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Évreux, France. Il est né à Casablanca, Maroc. Il y a des romans, des actrices, des films, des sportives dans ses chansons. Il y a un peu tout ça aussi dans ses chansons à lui, mais aussi avec un explorateur scientifique, des poules qui font des pas banal songs, des Arlettes et des Claudia dont on aime davantage les prénoms que leur métier. Il a aimé The Cure, Pulp et même les Smiths. Il a aimé Charles Trenet, Georges Brassens, Serge Gainsbourg et les Beatles, les Stones et puis Dylan et la pop, etc. Il a dit « J'ai toujours aimé les chanteurs à piano ». Il a dit « J'ai toujours aimé les chansons qui racontent des histoires où la fin est un peu triste ». Il y a des plans séquences dans ses chansons. Il y a des longs travelling dans ses chansons.
Il a une triple actualité, un spectacle théâtral et musical, un livre de photos et un livre disque pour enfants. Il a une simple actualité, un disque avec plein de chansons dedans qui ravivent la mémoire d'Alain, chanteur bobo. Il est chanteur, lui non plus. Il s'appelle Vincent Delerme, il s'appelle Alain Souchon. Deux noms en deux initiales, DS. Quand la musique donne, voici venir DS, comme la voiture des présidents d'avant, la DS. Ou bien peut-être comme cette chanson que vous avez su faire, DS, messieurs. Cet après-midi, c'est Souchon Delerme sur France Inter, l'endroit pour une drôle de rencontre. Bonjour Vincent Delerme.
Bonjour Monsieur Varro.
Bonjour Alain Souchon.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ah oui.
Alors, rituel de l'émission pour démarrer. Vincent Delerme, une petite question à Alain Souchon. Je crois que vous êtes un peu copain dans la vraie vie.
Oh, attention, attention hein à ce qu'on dit.
Oui, mais, c'est vrai, il faut se méfier. Oui.
Mais il faut se méfier, donc une petite question comme ça, en ce jour d'armistice, que tu aimerais poser à Alain Souchon, chanteur.
Alors, est-ce que tu as réussi à faire démarrer le GPS que tu as offert à ton épouse ?
Eh bien, là, tu me gênes beaucoup. Je ne m'attendais pas à cette question, comme dirait Georges Marchais. Je ne suis toujours pas parvenu à faire marcher le GPS. Je vais même te dire, je l'ai cassé en deux. Bon, alors non, pas non plus, parce que si jamais ma femme entend l'émission, elle va dire c'est vrai qu'il a cassé le GPS. Voilà.
Alain Souchon, une question à Vincent Delerme.
C'est,